Radio Okapi. Okapi. Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachamou. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous sur Okapi, la fréquence de la paix. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Qu'est-ce qui cause la dégradation des routes asphaltées en République démocratique du Congo? La dégradation asphaltée, bien sûr. Nous recevons pour en parler aujourd'hui Monsieur Richard Wenou, consultant international sur le financement des partenariats publics-privés. Monsieur Richard Wenou, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir répondu à notre invitation. On vous retrouve dans quelques instants. Des questions et préoccupations, appelez au 081-890-63-94. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Et voilà, le numéro, non, c'est pas celui-là, le numéro a changé. Appelez plutôt au 099-706-63-94. 099-706-63-94. Jody Daniel Kachama est au micro. À la mise en onde, Jean-Claude Siala, Tati Mapoukou réalise cette émission coordonnée par Nounongoy. Bienvenue à tous et excellentes conditions d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Grande interview. L'actualité en profondeur sur Radio Okapi, c'est dans Grande interview. Des questions politiques, économiques, sécuritaires et tout ce qui touche au vécu des Congolais sont abordées avec les spécialistes et les acteurs qui font l'actualité. L'actualité évolue et nous aussi. Toute l'équipe vous donne rendez-vous tous les samedis à 10h05, 13h05 et 19h35.
Qu'est-ce qui cause la dégradation rapide des routes asphaltées en République démocratique du Congo? Vous savez, les routes se dégradent au jour le jour dans bon nombre des provinces à travers la République. En outre, le gouvernement a du mal à mobiliser les ressources nécessaires pour les réhabiliter. Ainsi, il a ouvert le marché aux partenaires privés qui peuvent investir dans les secteurs routiers afin de maintenir les ouvrages en bon état. On en parle tout à l'heure avec notre invité, Monsieur Richard Wenou, consultant international sur les financements des partenariat public-privé. Monsieur Richard, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, et qu'est-ce qui cause la dégradation rapide de nos routes? Pourquoi nos routes ne durent pas longtemps?
Ben, la dégradation des routes, comme d'autres infrastructures, est causée au départ par les spécifications techniques qui ont conduit la réalisation de l'ouvrage. Mais en plus de cela, il y a plutôt la partie gestion du patrimoine, c'est-à-dire l'entretien et maintenance qui doit suivre pour se rassurer que ces routes ou ces infrastructures en général sont en bon état de serviciabilité, c'est-à-dire elles sont opérationnelles.
Ouais. Et quelle est la durée de vie d'une route? Parce qu'on a l'impression que les routes chez nous s'abîment même avant 5 ans.
Tout cela dépend, mais en principe pour une route nouvellement bâtie, je crois le besoin accru de maintenance peut se faire sentir peut-être vers la fin de la décennie durant laquelle elle est bâtie. Mais alors quant à la durée normale de sa vie, cela dépendra bien sûr du type de véhicules qui vont rouler dessus. Et dans ces spécifications, si la route a été conçue pour les transports ou l'usage des véhicules moyens et que malheureusement c'est fait que ce sont plutôt des engins lourds qui empruntent cette route-là, cette route sera au fait dégradée beaucoup plus vite qu'il le fallait. Donc voilà ce que je peux dire. Donc tout dépend de la nature du type de trafic et des spécifications techniques qui ont conduit à la conception de la route et la qualité des matériaux utilisés pour la bâtir.
Voilà, par exemple, dans les grandes villes, ce sont des véhicules, pas les gros véhicules, ce sont des véhicules moyens qui circulent. Alors, pour une telle route, la durée de vie est de combien? Combien d'années?
Tout va dépendre de la qualité de la conception des matériaux utilisés. Hein. Mais la durée de la vie peut toujours être allongée en fonction de la qualité de l'entretien de la maintenance.
Voilà, donc vous dites que si les routes s'abîment trop vite, c'est parce qu'il y a, c'est un problème de maintenance, mais il y a aussi les usagers qui posent des gestes parfois chaque jour qui contribuent à la destruction rapide de ces routes.
Et dans les, l'aspect spécification technique, cela englobe, par exemple, le système de drainage qui accompagne les routes, parce que, à défaut de ce drainage, il y a sûrement l'effet des eaux qui accélèrent un peu cette dégradation-là. Mmh. Donc, il y a aussi, bien entendu, l'action des usagers. Et cela, tout cela dépend de la réglementation en vigueur aussi pour s'assurer que ces services sont rendus de manière assez juste et équitable, qui puisse permettre sa pérennité.
Et quels sont les genres de comportements que, ou des gestes que les conducteurs, les usagers posent au quotidien et qui détruisent rapidement la route?
Bah, là, c'est encore question d'éducation civique. C'est la question d'éducation civique. Si, avant de prendre son volant, se mettre sur la route, on est passé dans une école d'auto-école, ces connaissances des bases, ces comportements citoyens pourront être transmis par ces genres de formations avant de prendre la voiture. Mmh. Alors, il faut rentrer là-dessus pour voir.
Il y a certains qui réparent leur camion en pleine chaussée, des huiles qui se répandent sur la route.
Je crois que c'est question simplement d'éducation, tant du côté des utilisateurs de la route et que des citoyens en général, parce que si ils ont été enseignés les avantages, inconvénients et dangers possibles que leur comportement peut causer sur la route, je crois qu'ils seront beaucoup plus avertis et qu'ils corrigerait leur comportement. Oui.
Voilà, il y a le problème la part des usagers qui posent des gestes qui détruisent rapidement la route. Vous avez des questions et préoccupations par rapport à ce thème? Appelez-nous au 786-63-94. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Richard Ouenou, il est consultant international sur le financement des partenariats publics privés. Alors vous avez dit, il se pose si les routes s'abîment vite, c'est un problème de maintenance, c'est un problème d'entretien. Alors comment devait-il faire exactement cet entretien ou cette maintenance, Monsieur Richard?
L'entretien et la maintenance font partie de ce qu'on appelle la gestion du patrimoine. Donc c'est une discipline, une technique qui tient compte de l'aspect global de l'infrastructure sur son cycle de vie. Donc cela implique d'abord la connaissance du patrimoine, de quoi elle est composée, et de son inventaire, qui va pouvoir permettre d'échelonner les timings pour le remplacement, les équipements ou de parties défectueuses, celles-là, réhabilitation ou expansion.
Et cet entretien doit se faire,
disons, de... Il y a un entretien de routine et un entretien qui est planifié dans le cadre de la gestion du plan de gestion de patrimoine. Et à défaut de ces plans, on va être en face avec des actions spontanées, non coordonnées, qui font qu'ils n'ont pas vraiment d'impact sur la durée de vie du patrimoine.
Voilà, nous avons un premier auditeur en ligne qui nous appelle depuis la ville de Kindu. Il s'appelle Esokoa. Bonjour Esokoa.
Bonjour grand frère, bonjour aussi à l'invité qui sont au plateau des Radio Capi.
Oui, quelle est votre préoccupation?
En tout cas, je suis très heureux donc du sujet d'aujourd'hui. Parce que nous regrettons toujours avec notre gouvernement et sur le problème des routes. Parce que moi, je suis à Kindu, je connais les 7 provinces ici à Kindu, de Maniema. Mais nous avons un sérieux problème, la route qui mène Kindu vers Kasongo, Kasongo vers Bukavu. En tout cas, j'ai dit, s'il faut venir voir, en tout cas, c'est déplorable.
La route est en très mauvais état.
Non?
La route est en très mauvais état, vous voulez dire?
En tout cas, la route est en mauvais état. Je vous dis, il y a beaucoup d'accidents et même des camions qui viennent de Bukavu vers Kindu. Donc, il y a des camions vraiment qui causent des accidents, les gens meurent. Donc, une route seulement de Kindu vers Serre Bukavu, qui n'a pas été bien rétabli. Je ne sais pas pourquoi le gouvernement n'a pas mis des fonds pour que cette route soit bien rétablie. C'est deux. Je pense qu'il faut voir les travailleurs qui travaillaient donc à cette route-là. En tout cas, il n'y a pas de bonne conscience, pas de bonne volonté. Donc, s'il faut voir aussi, il n'y avait pas même de suivi du gouvernement, je ne sais pas. Donc, des accidents. Attendez voir d'abord aussi à la saison des pluies. En tout cas, ça, je ne sais pas qu'est-ce que ça va se passer. Je voulais dire ceci à l'invité.
Oui.
L'invité, faites d'abord dire au gouvernement de faire coup de suivi des travaux que le gouvernement est en train de donner. Je ne sais pas si c'est à l'ONGD, si on dira à l'ONGD. En tout cas, de suivi, il n'y a pas de suivi. Les gens bouffent seulement l'argent, mais après avoir bouffé l'argent, ils perdent, il n'y a pas de suivi. Donc, il faut quand même qu'on soit d'abord sérieux. Et soit sérieux, soit aussi conscient tout ce qui est en train de faire dans notre pays. Voilà ma question, monsieur. J'ai dit bonne journée.
Merci, Esokoa de Kindu. Qu'est-ce qui cause la dégradation rapide des routes asphaltées en République démocratique du Congo? Nous recevons monsieur Richard Ouenou, qui est expert en infrastructure et partenariat public-privé. Nous recevons Malonga de Bandundouville. Bonjour, Malonga.
Oui, bonjour, Jodi, et bonjour à notre invité.
Quelle est votre préoccupation?
Ok. Ma préoccupation doit être la même comme tous les Congolais aujourd'hui. Nous remarquons ceci. Après avoir initié cette initiative des cinq chantiers, rétablir encore les routes en bonne forme, oui, en tout cas, nous étions joyeux. Surtout nous, d'ici à Bandundouville.
Mm-hmm.
Vous savez, le tronçon d'ici jusqu'à Mongata. Je ne sais pas si vous avez déjà parcouru cela.
Non, avant, pas encore.
Avant les cinq chantiers, c'était vraiment calvaire. Parce qu'on a essayé de rétablir ça, vraiment, c'est très bien. On commence à parcourir, on quitte ici le matin, on arrive le soir.
Mmh.
Ou bien on quitte le soir, on arrive le matin. C'est très bien. Mais jusqu'à présent, je dis Daniel Kacham, en tout cas, c'est devenu trop trop dur. C'est ce que je vais revenir encore au propos de mon confrère qui vient d'intervenir là-bas.
Mm-hmm.
Pourquoi seulement si vraiment ici une bonne chose? Et puis, on laisse ça comme ça. On attend le jour des fêtes de l'élection pour commencer à inciter le besoin de la population pour les aimer, à les voter. Et puis, on va se suspendre encore. Si on est dans le fixe de leur pouvoir, alors est-ce que les gouvernants ont réellement souci de la population ou bien ils sont toujours là-bas pour conserver leur pouvoir en matant les électeurs avec des petits travaux qu'on fait, puis on laisse cela.
D'accord, c'est merci.
Pardon, je dis.
Oui, Malonga, les autres attendent. Allez-y rapidement.
Oui, je demande ceci au nom de tous les Bandundois. Le tronçon Ngandambo et Mungata, qu'est-ce qui est en train de faire qu'on met des goudrons dans ce tronçon? Puisque ce tronçon, il faut vraiment fournir des aliments alimentaires à Kinshasa. Ici, il y a déjà des carreaux qui arrivent ici, des bus de GTT, des W et d'autres bus. Il y a vraiment des marchandises. Trop, mais ça tient ici. Faute de la route, en tout cas, nous sommes comme ça. Hein. Nous sommes trahis, nous sommes laissés par le gouvernement.
D'accord, merci. Christian, vous êtes à Kinshasa. Nous parlons de ce qui cause la dégradation rapide des routes à travers la République. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Christian? Bonjour.
Oui, bonjour. En fait, moi, ma réaction ici par rapport aux routes, c'est que nos routes sont d'abord très mal entretenues et très mal faites. Très, très mal faites, je dirais. Vous verrez des Chinois construire des routes ou des OVD construire des routes avec 2, 3, 4, 5 cm d'épaisseur de goudron. Mais ça ne s'est jamais fait au monde. Jamais fait. On construit des routes sans des caniveaux. Je ne sais même pas. Je me pose des questions de fois. Quand nous faisons des choses au Congo, il y a des ingénieurs et des gens qui ont étudié dans ce pays. Comment on peut construire une route sans caniveaux? Où passerait l'eau? Or, l'eau est l'ennemi de la route. Où passerait l'eau à cet état-là? Et vous voulez, comme ça, construire une chose à cet état, que ça puisse durer? Ça ne durera jamais. L'idée des 500 est une très bonne idée. Mais l'exécution, la planification, l'exécution, tout ça, ça a été très mal fait. Construire une chose, c'est comme faire un enfant. Non seulement faire, il faut l'éduquer, il faut le scolariser, il faut tout suivre. C'est aussi ça, la route. Vous construisez une route. Est-ce qu'il est entretenu? Est-ce qu'il est maintenu? Est-ce qu'il est... Qu'est-ce qui se passe? Mais si tout ça entre en compte, mais seulement dans notre pays, je me pose des questions. Vous parcourez partout dans le monde. Ce qui se fait au Congo ne peut se faire ici chez vous. Comment on peut faire une route avec 2 cm, 5 cm d'épaisseur? Et vous venez rouler avec des engins lourds ici. Mais les résultats seront catastrophiques. Nous n'aurons pas de route. Et à l'état actuel, nous avons ces pays. Dans 5, 10 ans, on n'aura aucune route. Aucune route où on peut rouler avec 40 km/h. C'est anormal.
D'accord, merci. Merci Christian Mboma. Je vais accorder la parole à notre invité tout à l'heure. Le temps de lire la réaction de Mukini Timothée qui nous a écrit sur la page Facebook d'Okapi Service. Il dit « Nous ne comprenons pas quelles techniques et quels matériaux les Belges ont utilisés pour construire les routes qui ont fait plus de 50 ans alors que celles construites récemment se détériorent après des mois. » Monsieur Richard Wenou est expert en financement des infrastructures et partenariat public-privé. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces auditeurs qui viennent d'intervenir?
Oui, en fait, leur souci se justifie dans la mesure où l'expérience quotidienne qu'ils vivent les amène à soulever leur ton sur ces questions-là. Bien sûr, comme on l'a dit au départ, au début de cette émission, il y a d'abord question de la conception technique de ces infrastructures routières, et puis c'est là qu'on prend les types de matériaux, le système de drainage qui les accompagne, et le type et la nature des engins qui sont destinés à utiliser ces routes-là. Et tous ces mélanges font que une faiblesse dans une de ces composantes va entamer la viabilité de la route en termes de sa durabilité, sa disponibilité à être utilisée. Et c'est là le point de départ. Donc il faut vraiment veiller aux conditions techniques dans la conception.
Mais à part cela, il y a aussi les aspects financiers, les financements. On peut commencer une route, après un moment les travaux s'arrêtent parce qu'il n'y a pas d'argent.
Oui, encore une fois, cela nous ramène à la question fondamentale de savoir dans tous les travaux de route que nous menons, est-ce que nous travaillons par rapport à un plan général qu'on appellerait master plan, donc un schéma directeur général, dans lequel tous ces travaux de route devraient au fait être inscrits. Donc ces schémas directeurs, ou autrement dit le master plan, ce serait la source même des projets routiers. Combiner cela à une technique de gestion du patrimoine, cela informerait l'autorité publique sur quel tronçon de route entretenir, quand, et laquelle il faut complètement refaire au-delà plutôt des nouvelles routes qu'il faut bâtir dans le cadre d'un schéma directeur qui envisagerait le développement de réseaux routiers, par exemple, sur un horizon de 10 à 15 ans. Alors, il faut se poser la question si cette approche existe, et si elle n'existe pas, je crois qu'il est plus que temps.
D'avoir un schéma directeur.
Oui, développement des infrastructures routières. Développement des infrastructures en général, y compris des infrastructures routières.
Et par rapport au financement, nous voyons souvent, la plupart des routes ici sont financées par d'autres organismes, des gouvernements, d'autres pays qui viennent financer telle route, parce que l'État n'arrive pas à mobiliser assez de ressources. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ces problèmes?
Bien entendu, pour les infrastructures publiques, il y a en fait trois modèles fondamentaux de leur financement. On a les modèles publics financés sur le budget de l'État. On peut avoir un modèle privé financé sur bilan de son entreprise. Bien sûr, dans ce cadre-là, ce serait une entreprise qui sera associée avec l'État au travers d'une compagnie mixte dans le cadre de partenariat privé-public des prestations partielles. Ou encore, il y a le type de financement sur projet où le financement est basé sur la qualité de trésorerie du projet en termes de pouvoir être en mesure de couvrir et les charges d'exploitation, mais surtout, servir la dette qui a permis au financement de ce projet. Il y a bien entendu d'autres modèles, comme le modèle d'Angola, par exemple, chinois, donc financement infrastructure.
L'Angola travaille avec les Chinois.
Non, mais c'est plutôt un modèle qui a commencé en Angola, où on fait le troc. On finance et on bâtit les infrastructures en échange des ressources naturelles. C'est ce qu'on appelle le modèle de l'Angola. Mmh. Et qui, en fait, n'est pas un modèle durable du tout. Quand vous regardez...
Je crois qu'on a eu à le faire ici également, avec les partenaires chinois.
Oui. C'est un modèle qui est hautement déséquilibré. D'abord, du point de vue technique, pour les infrastructures, il faut se rappeler qu'elles ne demandent pas simplement le financement pour les travaux de construction, mais un grand besoin de financement est requis pour la phase post-construction, donc après construction.
Après construction, oui.
En termes d'entretien, maintenance, oui. Réhabilitation.
D'accord, je reviens à vous. Oui. Les temps d'accueillir un auditeur, Michel, oui. Qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour, Michel.
Bonjour, M. Jobu. Bonjour à notre invité.
On vous écoute, Michel.
Bonjour.
C'est Michel Mimou, le président de la Corporation nationale des ingénieurs de TP. Je voulais juste intervenir par rapport au sujet du jour pour deux chefs. De prime abord, la dégradation du route d'une manière générale, c'est un phénomène qui est normal. C'est-à-dire, une route, quelles que soient les conditions dans lesquelles elle a été construite ou entretenue, au-delà de sa durée de vie, la route va se dégrader. Là, c'est un phénomène normal. Mais la dégradation, je pense, dont il est question ici, c'est la dégradation prématurée ou précoce de la route qui nous inquiète. Quand une route se dégrade avant sa durée de vie, il y a une inquiétude parce qu'on l'avait dimensionné pour servir pendant 10-15 ans et voilà que 2-3 ans après, on est obligé de revenir. Là, c'est inquiétant. Alors, je voudrais dire que la dégradation d'une route dépend premièrement des types de routes. Nous avons les routes revêtues, les routes non revêtues, ainsi de suite. Alors, quand nous prenons le cas d'une route non revêtue, une route en terre, par exemple, quels que soient les soins que vous allez y apporter, d'abord, sa durée de vie, elle est très courte. Elle ne dépassera jamais 2-3 ans sans que vous reveniez sur la même route, même si vous allez y apporter un bon soin de maintenance et d'entretien. Mais les routes revêtues, qui peuvent être des routes à revêtement bituminé ou à santé, ou des routes, disons, à béton, ces routes-là peuvent servir au-delà de 10-15 ans, comme l'a dit notre invité. Mmh. Alors, les conséquences ou les causes de dégradation de routes à santé sont vraiment très nombreuses. Notre invité en a cité, je crois, deux. Il a parlé de la technique, de demande d'entretien. Mais je voudrais compléter les éléments ci après. Une route peut se dégrader, évidemment, parce que ça n'a pas eu d'entretien, parce que la situation technique n'était pas très bonne. Mais une route aussi peut se dégrader due à l'évolution des paramètres et à combien son dimensionnement. Je prends un cas simple. Une route est maintenant évaluée le trafic à 1000 véhicules jour, quelles que soient les conditions dans lesquelles on l'a construite, quel que soit l'entretien qu'on y apporte. Si, pour un phénomène qu'on n'avait pas prévu au départ, cette route-là accueille 3000 véhicules jour, je vous assure, monsieur, oui. Elle va se dégrader avant le délai. Et ça, c'est clair. Alors, une route aussi peut se dégrader par rapport à une mauvaise exploitation. Je vais donner un cas simple. Aujourd'hui, nous savons comment les véhicules sur la route de Matadi sont chargés. Généralement, c'est au-delà même du poids admissible sur l'essieu. Si l'essieu a été dimensionné à tel tonnage, voilà que les véhicules sont surchargés à outrance. Oui. Les circuits sur ces véhicules-là, quelle que soit la qualité de la construction, de l'entretien et ainsi de suite, cette route-là finit par se dégrader prématurément. Il y a encore aussi cet aspect, il a parlé de spécialisation technique, donc c'est l'aspect. Vous pouvez faire des spécialisations techniques correctes, mais si lors de la mise en œuvre des matériaux, oui. Lors de la mise en œuvre des matériaux, vous n'avez pas eu un contrôle, une mission de contrôle et de suivi efficace, une mission qui a été complétante, quelles que soient les meilleures spécialisations techniques, cette route finira par se dégrader prématurément. Donc, d'accord. Je pense que la question est de savoir pourquoi la route se dégrade d'une manière prématurée ou précoce. On aurait parlé d'une dégradation de route qui est un phénomène normal.
D'accord.
Ce qui concerne la dégradation de route.
Merci.
Je voudrais entrer un tout petit peu sur...
Merci, monsieur Michel, parce que les autres... Oui, un instant, les autres attendent le temps d'accueillir Jean-Éric qui nous appelle aussi, qui nous appelle des Kikwit. Jean-Éric, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur les journalistes. Bonjour aussi à l'invité.
Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, quant à moi, j'aimerais demander à l'invité qu'il me dise un peu
Est-ce qu'il y a les tonnages bien calculés dans nos routes pour ne pas abîmer très vite nos routes pour les grands camions qui surchargent l'air charge dans le camion, dans les carrosseries plutôt? Et puis, comment l'État bénéficie de l'argent qu'on paye dans le péage et d'autres services installés dans le route?
D'accord, merci Jean-Éric Dekikuit. Je reviens à vous, monsieur Richard Renou. Vous avez la parole.
Pourriez-vous revenir sur la deuxième partie de sa question, peut-être?
Là, il y a monsieur Michel qui a ajouté les autres causes hein, par rapport à la dégradation rapide des routes.
Oui.
Il parle de la dégradation prématurée des routes parce que la dégradation est c'est tout à fait normal, mais quand les routes s'abîment trop vite, hein, il a parlé des routes en terre qui dont la durée de vie est très courte et puis les routes revêtues qui s'abîment vite aussi lorsqu'il y a un grand trafic, lorsqu'il y a une mauvaise exploitation, par exemple les surchargements, cela abîme rapidement les routes.
Tout à fait. Il me rejoint en identifiant la question de la spécification technique au départ même du projet de la route. Et dans cette spécification, on va identifier ou définir les tonnages permis pour une route donnée. Et quand on arrive à une dégradation prématurée qui y est, les véhicules non prescrits pour rouler sur cette route-là qui roule, ça se questionne la réglementation. Réglementation simplement. Et en plus, il y a cette histoire de gestion du patrimoine. Parce que cette dégradation prématurée, du moins, comme l'autre invité l'a dit, en restant sur la route revêtue, ferait partie de cette programmation même de quand ces routes seront entretenues. Donc, il y a la réglementation qu'il faut mettre en jeu ici. Mais encore une fois, les spécifications techniques, la conception même de la route, reste un domaine, un paramètre déterminant en termes de quel type de tonnage est permis sur la route, quel matériau à utiliser et pour quel type de trafic. Et la nature du trafic
qui va y prendre. Tout ça reste à déterminer.
Ouais.
Alors Jean-Éric nous parle du péage, il dit quel est le tonnage requis pour la route. Vous avez dit tout dépend, tout doit être déterminé par rapport à la route. Alors il a parlé aussi du péage, il dit qu'il voit souvent sur certaines routes on paye de l'argent. Pourquoi cet argent ne sert, on a l'impression que ça sert pas du tout à la réhabilitation des routes.
Oui, le péage dépend dans quel cadre ce péage est fait, c'est surtout sur quel type de financement il a été fait. Bien entendu, on suppose que ce péage servira à recouper l'investissement qui a été utilisé pour ce projet de route. Et dans ces remboursements, il y a les frais, les charges, l'exploitation, la maintenance qui sont comprises. Donc,
Et qui est institut qui gère ces péages? C'est l'État congolais ou bien des privés peuvent s'en charger?
Tout dépend des arrangements contractuels. Ça dépend dans quel cadre la route a été bâtie et cet arrangement de péage a été institué. Mais cela peut être en rapport, en fonction de accords contractuels, ou par le secteur privé lui-même, ou par une structure de l'État chargé de faire la collecte de péage.
Mais si on est dans le cadre du partenariat public-privé, comment cela peut fonctionner pour permettre la maintenance et la réhabilitation des routes?
Donc cela va rentrer dans les prérogatives de l'opérateur, c'était du projet, qui aura fait le projet, qui s'occupe bien sûr de son entretien, d'avoir sa construction, son maintien et la collecte de péage. Donc ça rentre dans le cadre d'arrangements contractuels pour les projets types. Ouais.
Voilà.
Ouais.
Donc tout dépend, un privé peut investir son argent dans la réhabilitation des routes et puis s'occuper du péage.
Oui.
Pas seulement des routes ou bien d'autres infrastructures, ouvrages aussi d'intérêt communautaire.
Non, d'autres ouvrages aussi, notamment dans le secteur de l'électricité, dans le secteur de l'eau potable. C'est là est faisable aussi, mais il y a plutôt une difficulté au niveau même de l'économie de ce projet-là, notamment lorsque ce projet génère des revenus en monnaie locale. Il faut qu'on sache de quel investisseur nous parlons. Si c'est un investisseur local, on suppose peut-être qu'il ferait son investissement en monnaie locale pour éviter les risques lié à l'inflation, au taux de change notamment. Mais si c'est un investisseur privé, ça va être extrêmement difficile, d'autant plus que s'endetter ou faire l'emprunt en réserve forte comme l'euro, le dollar ou le livre sterling, investir dans un projet qui va générer les recettes en monnaie locale, cet investisseur-là aura sera exposé à des très très importants risques liés au taux d'échange et à la dévaluation de monnaie locale par rapport à monnaie étrangère.
Comme c'est le cas, comme c'est le cas actuellement.
Oui. Oui. Ce qui fait que ces projets sont difficilement réalisables dans le contexte actuel à cause de cette question-là. C'est cela qui nous ramène en fait à l'importance même de pourquoi il faut, de manière urgente, penser à créer les marchés de capitaux en RDC. Et dans ces marchés de capitaux, vous avez surtout les côtés obligations qui utilisent les financements à long terme, dont les détenteurs sont les investisseurs institutionnels du type fonds de pension en RDC, parlons ISS, compagnie d'assurance vie, etc., y compris c'était comme la Sonas, qui ont des avoirs à long terme, financiers à long terme. Mmh. Et la maison de ces avoirs-là, c'est les marchés de capitaux, notamment le côté obligations, pour pouvoir émettre les titres obligataires en monnaie locale, qui va matcher, au fait, le type de recette que ces projets d'eau et d'électricité, s'il n'y a pas une composante d'exportation, mais ce sont les projets d'électricité, par exemple, fournir l'électricité localement, et la nature des types de financements requis par ces genres de projets, eau, énergie, transport routier, où il n'y a pas une composante d'exportation, ce n'est que le marché des capitaux local.
D'accord.
Sur tous les côtés obligations.
D'accord. Je reviens à vous, le temps d'accueillir des auditeurs. Qu'est-ce qui cause la dégradation rapide des routes asphaltées en République démocratique du Congo? Et comme l'État n'a pas de moyens, peut-on recourir au partenariat public-privé? Gloire, vous êtes à Gbadolité et Jean-Dominique nous appelle des Lubumbashi. Gloire, bonjour.
Bonjour à Radio Okapi, bonjour à l'invité.
Bonjour.
On vous écoute, Gloire.
Oui, moi je voulais intervenir par rapport à la thématique du jour, plus précisément par rapport à la conscience des ingénieurs qui nous construisent des routes. Vous savez, monsieur de Radio Okapi, la plupart des ingénieurs qui nous construisent des routes sont dépourvus de conscience. Ils travaillent les routes de manière commerciale dans la mesure où quand ils finissent à travailler, l'État va encore reculer à nous. Étant donné que nous sommes dans un État où l'État n'a pas encore compris le sens fondé du suivi, vous voyez, ce qui fait que ceux qui construisent des routes, des partenaires privés là, ils font de n'importe quoi. Ce qui fait en fait qu'on a toujours des problèmes de routes. Dédé, je voulais un peu parler de quoi là? Des arbres. C'est-à-dire, dans la plupart de nos routes, il y a des arbres par-ci par-là. Ce qui fait que le soleil n'est pas encore en mesure de frapper sur le sol. Et il y a des marécages partout dans les routes, et quand des gros véhicules viennent passer, ça cause encore des dégradations très pires encore. Donc voilà, un peu en quelque sorte, ce que je voulais vous dire par rapport à l'émission du jour.
Merci Gloire de Gbadolité. Jean-Dominique, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, le journaliste, bonjour aussi à l'invité.
On vous écoute Jean-Dominique.
Voilà, en tout cas, c'est le sujet très intéressant, monsieur le journaliste. Je tenais un peu poser une question à l'invité en rapport avec la route du Katanga vers le Kasaï. Vous voyez, quand vous êtes déjà dans la province de Olomami, il y a un territoire qu'on appelle Kanyama. Vous voyez, juste à côté du territoire, il y a le péage, tout près là-bas, il y a du péage, mais la route, c'est bizarre, même le pont. Il n'y a même pas le pont, quand je vous parle là, monsieur le journaliste, il n'y a même pas le pont. Bon, le péage est là, en train de percevoir l'argent, et les gens sont en train de passer. Est-ce que pensez-vous que ils pourront payer l'argent au péage aussi longtemps que le pont qui est tout près du péage dans le territoire de Kanyama, il n'y a même pas moyen de passer? Et est-ce que, et la question que je m'ai posée à l'invité, est-ce que les gens pourront payer l'argent au péage dans cet état?
D'accord, merci Jean-Dominique de Lubumbashi. Monsieur Richard Wynne, vous avez la parole.
Merci. Oui, je voulais dire à l'invité que
à l'auditeur
que ces soucis sont sûrement justifiés. En fait, il faut voir dans quel contexte ce péage peut être placé. En principe, lorsqu'on fait la cour de péage, on est supposé que cette collecte va pouvoir aller servir à soutenir les charges d'entretien de l'ouvrage et à faire un remboursement quelconque de la dette qui a servi à financer ce projet-là. Alors, je ne pourrais pas franchement dire ce qui se passe dans le cas typique du pont de Kanyama,
auquel
il fait référence, mais en gros, ce péage devrait servir à l'exploitation de l'ouvrage et au remboursement de la dette qui a permis à son financement. Ouais, tout ce que je peux dire.
Voilà, mais il s'étonne qu'il y a, un péage à côté, mais on n'arrive jamais, on n'arrive pas à réhabiliter la route en question. Bien, nous allons accueillir Georges qui nous appelle des Manono. Et avant de retrouver Gloire qui a parlé des ingénieurs civils qui travaillent, d'après lui, ils viennent seulement pour gagner de l'argent et après ils font pas un travail de qualité. Georges, vous êtes à Manono, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Jody, bonjour aussi à tous les auditeurs de la Radio de la Paix. Oui, Monsieur Jody, c'est une émission qui m'a tellement intéressé parce que les problèmes de route ici à Manono, je prends par exemple la route Manono-Lubumbashi, c'est une route qui se trouve dans un délabrement très avancé. Et pendant la période de la pluie, les camions parviennent même à faire 3 mois avant d'arriver à Manono. Mais la chose qu'on se demande, comme les prédécesseurs viennent de le dire, il y a les péages qui existent, mais les péages, c'est comme nous constatons que l'argent des péages là vont directement dans les poches des gens qui travaillent là-bas. Alors la question que je voudrais demander, le délabrement est aussi causé par les surcharges des camions. Alors pourquoi il n'y a pas les services de surveillance pour essayer un peu de voir les camions là qui excellent peut-être en ce qui concerne les charges et que les camions là prennent. Et pour terminer, Monsieur Jody, le délabrement est aussi causé par, je prends par exemple ici à Manono Centre, il y a pendant la période de la pluie, nous avons des routes où vous pouvez même passer en plein centre de Manono. Pour passer, il faut peut-être plier le pantalon 3 ou 4 fois. Cela peut-être ne plaît pas. J'ai vu l'initiative de notre administrateur. C'était bon, mais il n'y a pas tellement l'apport de notre gouvernement. C'est comme s'il y a peut-être une négligence de nos routes. Voilà tout, Monsieur Jody.
Bien, merci beaucoup. Donc on retient que il y a beaucoup de causes à la base de la dégradation rapide des routes. Il y a des problèmes d'entretien. Quelqu'un a dit tout à l'heure, est-ce que le fait que les arbres soient à côté empêche le soleil d'atteindre les routes? Est-ce que cela contribue à la destruction rapide de la chaussée?
Tout dépend du contexte et puis du cas par cas. Donc on peut pas vraiment généraliser dans ce sens-là, quoi. On peut pas généraliser. Tout dépend du cas. Il y a des conditions ou des circonstances qui peuvent rentrer dans ces cas, et d'autres pas. Donc, c'est vraiment difficile de tirer une conclusion générale là-dessus.
La Georges Desmanono nous dit également, là-bas, les routes sont dégradées. À quoi sert le péage? Il y a la corruption, dont l'argent est utilisé pour autre chose. Alors, je voudrais savoir, Monsieur Richard, est-ce que dans notre pays, il y a des cas, des exemples, des partenariats publics-privés qui marchent bien et qui ont permis de maintenir les routes en bon état?
À ma connaissance, il faut d'abord commencer par définir ce que sont les partenariats publics. Notamment, qui sont les partenaires à ce partenariat qui va permettre la mise en œuvre d'un projet, d'infrastructure notamment, pour quel objectif et comment ils vont le faire. Donc, sur cette base de définition, il faudra maintenant voir ce que vous parlez par le terrain public, si ça correspond à cette démarche du PPP, notamment en termes de deux partenaires, un privé, l'autre qui est public, qui s'associent pour partager les risques, partager les avantages aussi, partager les responsabilités, en vue de la livraison d'une infrastructure qui sert à finalement un service public de qualité, comme eau, électricité, transport, etc. Et puis, la passation de marché des PPP, qui est totalement différente de PPP, enfin, la commande publique. Donc, je ne saurais pas dire réellement s'il y avait de PPP ici, au vu de ces éléments ici, notamment le mode de passation de marché, surtout pour les PPP de financement, où cela implique l'usage des structures contractuelles de type BOT, où le financement est fait d'office par le biais de la société de projet. Et c'est sûrement de ça que je pourrais qualifier ou pas un projet quelconque qui existe.
Mais quels sont les avantages d'avoir un partenariat public-privé dans les domaines de réhabilitation, d'entretien de routes et d'autres ouvrages?
Le partenariat public offre beaucoup d'avantages dans le sens de gains d'efficacité que le projet va offrir sur tout sur sa durée de cycle de vie. Donc ici, ça va dépendre s'il s'agit des projets Greenfield qui incluent le développement du site de projet, préparation avant construction, construction même, et puis exploitation, maintenance, etc., et éventuellement retour des biens à l'État si le cas est justifiable, cas échéant. Ou alors le projet Brownfield, il s'agit de projets de réhabilitation, remplacement, renouvellement, extension, etc. Et lorsque le financement privé est requis et que ça se fait en termes de financement, PPP de financement, cela se passe notamment, comme je l'ai dit il y a une minute, par l'usage d'une compagnie de projet qui devient l'emprunteur, en fait. Et le remboursement de ces financements...
Privé qui emprunte de l'argent au gouvernement?
Non, pas du tout.
Qui investit l'argent privé dans le domaine. Oui.
Investisseur privé. Oui. Et le remboursement de ce projet sera sur la base de la force des flux de trésorerie du projet en question. Alors, il me sera extrêmement difficile de pouvoir qualifier tel ou tel autre projet couramment dans le pays d'un PPP dès lors que cela ne rentre pas dans la définition technique du mot et de sa pratique internationale. Oui.
Mais on peut dire que le partenariat public-privé est une bonne chose pour le cas de la RDC, pour nous permettre d'avoir des routes en bon état.
C'est la voie obligée, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec surtout les gains d'efficacité qu'on aura sur tous les cycles de vie de projet et l'appui technique des partenaires privés qui, eux, auront besoin de réaliser des performances voulues en vue de s'assurer que les revenus recueillis par l'exploitation du service pourra leur permettre de pouvoir rembourser la dette contractée pour financer le projet. Donc, ils ont dans cet intérêt-là, parce que vous savez, dans le cas de route, par exemple, on peut signer un PPP où la rémunération du secteur privé se fera sur base des valabilités de la section de route ou de la route en question. Et
par le péage, notamment.
Oui, oui. Le péage, ce que je dis, ça va être payé. Mais le péage peut se faire soit par l'usager de route, ou les usagers de route, ou par le gouvernement sur son budget, mais sujet à la disponibilité de l'ouvrage. Vu les risques qu'il y a dans ce type d'arrangement, très peu d'investisseurs considéraient les cas où ils viendraient financer la route et attendre que les usagers payent. Parce que là, ils sont exposés aux risques commerciaux, notamment en termes de demande, donc trafic, et niveau de péage. Et généralement, c'est paiement sur budget de l'État, mais sur base de la disponibilité de l'ouvrage. À ce moment-là, même dans ce cas, il y a toujours un petit peu de risque résiduel en termes de la qualité et surtout de la crédibilité du gouvernement à être en mesure de faire le paiement à temps pour éviter que la compagnie du projet soit en banqueroute à cause du retard de paiement de l'État.
Voilà. Alors, vous avez d'ailleurs parlé de ces financements des infrastructures avec les ingénieurs civils dernièrement à Kinshasa. Quelles sont les conclusions? Qu'est-ce qui a été conclu pour que nous puissions avoir des bonnes routes dans notre pays?
Avant même d'arriver au partenariat privé-public, il est vraiment essentiel, avant même de commencer à penser à ce processus, de pouvoir créer le cadre de PPP. Qu'est-ce que je veux dire par cadre de PPP? Les PPP proviennent des réformes institutionnelles qu'il y a eu dans le secteur public, notamment le secteur des infrastructures. Et ces réformes ont donné lieu soit aux entités qui sont restées publiques, mais opérant sur les bases commerciales, donc PPP formelles, ou PPP fonctionnelles, où les entreprises peuvent engager le secteur privé à différents degrés, soit pour rendre un service, soit pour gérer le service sous contrat de gestion, le cas de la Régie des eaux notamment, aujourd'hui, elle est sous contrat de gestion, ça peut aller à l'affermage, etc., avant d'arriver au type de financement en PPP du type contractuel BOT, génériquement appelé, mais qui comprend beaucoup de subdivisions.
Beaucoup de subdivisions, bien sûr. Oui.
Alors, je disais que ce cadre est extrêmement important, parce que l'État doit d'abord définir quelle est sa politique des partenariats publics. Qu'est-ce que l'État congolais, cas échéant, entend obtenir des PPP?
Tout doit commencer par là.
Ça, c'est la base.
La base, voilà.
Alors, quand on a ce cadre, cette vision définie, objectif, comment on va s'y prendre, donc, la procédure? Et dans cette procédure, on va identifier les institutions actrices qui vont pouvoir jouer le rôle de piloter les processus. Et c'est seulement après cela qu'une loi de PPP peut être envisagée, parce qu'elle viendra donner pouvoir des lois et à la politique et surtout aux institutions du cadre institutionnel et leurs animateurs. Alors, cette politique et ce cadre institutionnel font partie des études critiques préalables qu'il faut faire, mener, et qui vont pouvoir inspirer la loi des PPP.
Voilà,
surtout dans le cas actuel où la RDC est en décentralisation, passant de 11 à 26 provinces, sans politique des PPP,
il
sans
sera
cadre
difficile.
Institutionnel. Oui. Donc, ça sera comme bâtir une maison, comme on s'en parle de toiture, sans mur, sans fondation.
Sans fondation. Ouais. Donc, il faut commencer par définir une politique des PPP, des partenariats publics-privés dans notre pays. Ouais. Et sans oublier également l'éducation des populations par rapport au bon usage des infrastructures routières, parce que les gestes que posent les citoyens au quotidien contribuent à la destruction des routes. Merci, monsieur Richard Wenou. Je rappelle que vous êtes expert en financement des infrastructures et partenariats publics-privés. Merci et à la prochaine.
Merci beaucoup. Mon plaisir.